Alors, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec nous dans l'Évangile de Jean. On va aller au chapitre 11. Autrement, ça va être affiché à l'écran. Alors, vous allez pouvoir suivre la lecture de la parole de Dieu à l'écran. On va retrouver ce matin Jésus alors qu'il se rend auprès de ses amis. Jésus avait des intimes, des gens qui étaient proches de lui. Et un de ses amis, Lazare, est décédé. Il était malade, tombé malade, puis il est décédé. Et Jésus se rend auprès de lui. Et la parole de Dieu nous dit, et Jésus nous dit ici que ce qui va se passer là, le miracle que Jésus va opérer à ce moment-là, devait servir à nous faire connaître qui est Jésus-Christ, ce qu'il représente pour vous et moi aujourd'hui encore, et devait servir aussi à annoncer sa propre résurrection qui était à venir. On va aller ensemble dans un mot de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je m'adresse à toi ce matin par la foi. Une foi, Seigneur, qui a bouleversé ma vie parce que tu as bouleversé ma vie, Seigneur. Il y a bien des années, tu t'es fait connaître à moi personnellement, Seigneur, et pour ma part, ta résurrection, je ne pourrais pas, Seigneur, en douter. Parce que ta résurrection est venue apporter une vie nouvelle en moi, Seigneur. Et ça a été le cas pour des millions et des millions de personnes depuis ce jour glorieux où tu es sorti du tombeau. Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es venu, tu nous as aimés. Ton destin était de mourir sur cette croix, de t'offrir, c'est pourquoi tu n'as pas résisté. Et ton destin était de vaincre la mort, de vaincre le péché, de vaincre le diable, l'ennemi de nos âmes, afin que ton sacrifice soit agréé, accepté par ton Père, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ce jour glorieux. Sois béni, Seigneur, pour le jour de ma conversion, de ma nouvelle naissance, où tu m'as donné ton esprit, et pour chacun d'entre nous ici qui ont cru en toi. Seigneur, je te prie de venir te manifester dans nos cœurs ce matin, au milieu de ton assemblée, Seigneur. Viens et parle à chacun d'entre nous, comme tu le jugeras bon, Seigneur. Parle-nous premièrement par ta parole ce matin. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, la lecture biblique de ce matin, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Les disciples lui dirent, Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Merci. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, beaucoup de choses qu'on poursuit pour se sentir vivant. Il y a énormément de choses où on court après des choses pour se sentir vivant. Je ne sais pas votre rythme de vie à vous, mais moi, mon rythme à moi, ça ressemble à une course effrénée. Et régulièrement, je m'arrête, je prends un grand soupir, puis je dis, mais quand est-ce que ça ralentit cette course-là? Et je partageais avec Esther il y a une semaine, je disais, le plus fou là-dedans, c'est que lorsque je m'arrête pour réfléchir, dans le fond, je suis juste en train de réfléchir comment je pourrais réussir à en faire plus encore, pour réussir à accomplir tous mes rêves, tout ce que je voudrais faire, parce que j'en veux plus encore. Il y a énormément de choses qu'on fait pour se sentir vivant. On cherche l'amour pour se sentir vivant. On sort avec des amis parce que à job, on se sent pas en vie, puis j'ai besoin de me sentir vivant. On fait du sport parce qu'on a peur de pas être vivant, puis on veut se sentir bien vivant. On veut réussir notre vie pour croquer dans la vie à fond. Puis en même temps, il y a quelque chose de fou là-dedans. Parce que je veux dire, si on est en train de faire tout ça, en réalité, c'est parce qu'on est vivant. On ne va pas s'arrêter pour dire, attends un petit peu, je suis vivant. Après quoi je cours? Je suis là, je suis vivant. On court parce qu'on veut essayer de saisir la vie. Dans la presse, hier matin, il y avait un article de Stéphane Laporte Stéphane Laporte, un humoriste, il a travaillé aussi à la réalisation de Star Academy, des choses comme ça. Un gars, un chroniqueur dans la presse régulier, souvent intéressant, souvent des réflexions assez intéressantes. Cette fois-ci, je le trouvais pas mal moins comique, parce qu'il avait décidé que la fin de semaine de Pâques, c'était un bon moment pour se moquer un petit peu de la foi chrétienne, du christianisme. Et bon, c'est de bon ton, hein. C'est, on est à cette époque-là, post-chrétien. C'est correct de faire ça. Je trouvais que c'était de mauvais goût, bien honnêtement, pour une société multiculturelle, de faire ça pendant la fin de semaine de Pâques. J'aurais peut-être pris un autre moment que la fête la plus importante des chrétiens. Mais je comprends. C'est correct. C'est l'époque. En gros, voici comment est-ce qu'il a terminé son article à la fin, où spécialement, il se moquait un petit peu de toute cette idée de la résurrection, qu'on attend le Jésus ressuscité. Et à la fin, il termine son article en disant ceci. Peu importe nos croyances, ce week-end est avant tout la fête de la renaissance, parce que c'est la fête du printemps dans son esprit. On naît un jour, on renaît tous les jours, parce qu'un être, un lac, un livre ou une chanson nous donne le goût d'exister. Puis il termine son article en disant ceci. Essayons d'être éternels, ne serait-ce qu'aujourd'hui, la vie le vaut bien, joyeuse Pâques. Mais ce matin, ce que j'aimerais vous proposer, c'est ceci. Essayons d'être éternels. En saisissant, en comprenant ce que Jésus-Christ est venu faire, qu'est-ce que sa mort, sa résurrection signifie pour notre éternité, pour notre vie à nous, ici et maintenant. Dans le passage où on retrouve Jésus, bien Jésus se rend vers ses amis, il se rend vers Marthe et Marie, et alors qu'il est ailleurs, il est assez loin à ce moment-là, des gens viennent vers lui, lui annoncent la nouvelle que son ami Lazare est mort. Et donc, c'est pas la vie, c'est la mort, ça va mal. Maintenant, Jésus dit quelque chose à ce moment-là, quelque chose de surprenant. Il dit ceci. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus est en train de dire que cette mort-là avait un sens, qu'elle allait être utile. Alors, il prend le chemin, mais il se presse pas. Le texte prend même le temps. Jean prend le temps de nous dire que Jésus se presse pas de partir tout de suite. C'est comme s'il veut s'assurer qu'il n'y a pas de question sur le fait, est-ce que vraiment il était mort? Tu sais, dans le fond, il était peut-être juste dans un gros sommeil profond. Ça prenait la voix de Jésus pour le réveiller. Non, on va prendre notre temps avant d'arriver là-bas. Prends son temps. Et évidemment, lorsqu'il arrive là-bas, ses amis connaissaient Marthe et Marie connaissait Jésus pour les miracles qu'il avait fait, avait probablement été témoin de miracles déjà. Et donc, tout de suite, ce sont les reproches. Parce qu'ils disent, oui, mais Jésus, si tu avais été ici, toi qui fais des miracles, toi qui donnes la vie, toi qui guéris les malades, toi qui redonnes la vie à des membres estropiés, si toi tu avais été ici, il ne serait pas mort. Puis Jésus va répondre quelque chose d'assez particulier, d'assez étrange. Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Je suis la résurrection » Deux choses, très simplement, d'accord? Premièrement, Jésus veut dire qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. Comprendre le christianisme, comprendre qui est Jésus-Christ, demande de saisir que Jésus est Dieu le Fils, il est le Fils de Dieu, et que cette autorité que Dieu a sur nos destinées. La parole de Dieu nous dit que Dieu a devant lui les jours de notre vie, de notre naissance et de notre mort. Bien, Jésus est en train de dire ici qu'il est la résurrection et qu'il a le pouvoir de donner la vie, qu'il a le pouvoir de ressusciter Lazare. Et donc, quelques temps après, quelques instants après, Jésus va ressusciter Lazare d'entre les morts afin de donner la démonstration, comme il a dit, afin que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu soit glorifié et que les gens découvrent qu'il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir de donner la vie. Mais deuxièmement, le deuxième élément, par le fait même, Jésus est en train d'annoncer sa propre résurrection qui va venir plus tard. Dans la fin de semaine de Pâques, bien vendredi soir, on a souligné ensemble la mort de Jésus, son arrestation, sa crucifixion, sa mort. Et ce matin, les chrétiens célèbrent partout dans le monde sa résurrection. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il était en train d'annoncer, déjà à l'avance, sa propre résurrection qui allait venir, quelques temps plus tard. Et lorsque ce miracle-là s'est produit, mais vous pouvez deviner que les disciples ont eu de la difficulté à le croire. Des semaines plus tard, Jésus va être arrêté, il ne va pas résister à son arrestation, il va se laisser prendre, laisser livrer aux Romains, il va être crucifié, va mourir très rapidement, mis en terre, et trois jours plus tard, il va ressusciter. Maintenant, c'est super important pour les chrétiens de saisir ça, de croire dans cette résurrection. C'est quelque chose de complètement fou, d'accord? Je suis quand même de mon époque. J'ai lu la presse ce matin, je l'ai lu hier matin. Je suis les médias, je suis branché, je suis les technologies. Alors si vous êtes là puis vous arrivez dans une église ce matin et vous dites, il est complètement disjoncté le bonhomme, monsieur le preacher est en avant puis il croit une affaire qui se peut pas. Mais dites-vous quelque chose. Les premiers témoins ne croyaient pas non plus. Ils trouvaient ça complètement fou. Parce que c'est pas normal une résurrection. On s'entend? Moi, j'ai pas assisté à des résurrections. On a des médecins dans la salle, je vois des médecins. Ça arrive pas souvent dans les hôpitaux. C'est pas normal, cette affaire-là. Et donc, les premiers disciples qui étaient là n'en croyaient pas leurs yeux. Et il a fallu que Jésus se manifeste, qu'il se montre à plusieurs personnes. Il a fallu qu'il aille manger avec eux parce que certains disaient, OK, écoute, on croit en lui, il est vivant spirituellement, Dieu existe, Dieu est un esprit. C'est son esprit qu'on voit, il n'est pas là physiquement. Alors il a mangé avec eux afin qu'ils puissent voir qu'il était bien là physiquement, qu'il pouvait manger. Puis, tu sais, le morceau, la bouchée, elle tombait pas par terre. Fallait que ça se digère. On a un processus naturel qui se passait. Et donc, Jésus a eu à se manifester. Et c'est quelque chose de super important. Si vous êtes dans un cheminement, vous vous interrogez par rapport au christianisme, puis vous dites, c'est intéressant, quand j'écoute le message de Jésus, il y a des choses intéressantes. Il parle de pardon, il parle de Dieu qui veut faire grâce, il parle d'une nouvelle vie, d'un renouveau, d'une renaissance. Je trouve tout ça intéressant, mais cet aspect-là d'une résurrection physique, regarde, on n'est peut-être pas obligé de tout prendre la patente. Peut-être comme juste formater ça un peu puis rendre ça au goût du jour plus acceptable. Ben, d'une part, tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu. À partir du moment où tu crois, d'accord? Et donc, tout n'a pas à être toujours démontré. Aujourd'hui, maintenant. Oui, il y a une part de foi. Mais cette foi-là doit être dans un événement historique. Où Jésus-Christ est mort et il est ressuscité physiquement. Elle doit l'être parce que c'est là que nous trouvons l'assurance de notre propre résurrection à venir. Elle doit l'être parce que c'est ça qui est la garantie que le sacrifice de Jésus a été agréé, parce que Dieu lui a redonné la vie. Et aujourd'hui, on assiste dans ce qu'on va appeler communément le christianisme, toutes sortes de courants où des gens vont dire, mais regarde, peut-être que c'est juste en esprit qui est ressuscité. Puis ça va être plus facile à faire accepter. Et il y a eu vraiment tout un courant à travers la théologie libérale où le christianisme a voulu se mettre un petit peu au goût du jour, puis ils se sont dit, écoute, si on rendait ça un peu plus acceptable scientifiquement, peut-être que les gens embarqueraient plus, puis on arriverait à réchapper l'Église. On réussirait à sauver le christianisme à travers ça. Ce que ces théologiens-là, peut-être bien intentionnés, ne réalisaient pas à ce moment-là, c'est qu'ils étaient en train de détruire leur propre foi à eux-mêmes. Et quelques décennies plus tard, vous alliez vous retrouver avec des supposément chrétiens qui ne croient plus en grand-chose. Et je veux juste vous donner l'exemple d'un témoignage triste, je vous avoue, parce que c'est un monsieur que j'aime entendre bien souvent. Il y a quelqu'un que vous êtes peut-être habitué d'entendre au Québec, il a écrit un article dans la presse ce matin, c'est pour ça que je suis sur mon iPhone, mais l'abbé Raymond Gravel, certains d'entre vous, vous le connaissez, pas ça, tout le monde en parle, des choses comme ça. L'abbé Raymond Gravel, c'est quelqu'un qui est intéressant, il est intéressant à entendre, c'est quelqu'un qui réfléchit tout ça, mais il est dans cette mouvance des théologiens très, très contemporains qui se disent, ben regarde, ça va être difficile à avaler toute cette affaire-là, des miracles, des choses comme ça, fait que si on faisait un petit peu de ménage dans tout ça, peut-être qu'on arriverait à quelque chose de juste spirituel, invisible, et ça serait plus acceptable. Quand je vous dis que j'apprécie ce monsieur-là, je veux que ce soit clair, d'accord? Je vous avoue, des fois, je cite des gens puis j'entends des ricanements dans la salle puis je trouve pas ça drôle parce que je suis pas en train de mépriser ces gens-là. D'accord? J'ai vraiment de la peine pour cet homme-là parce que cet homme-là est atteint d'un cancer et j'ai entendu une entrevue il y a même pas un mois et demi. Et cet homme-là, qui est un homme de Dieu, un homme de la parole, un membre du clergé qui est là pour conduire les brebis vers Dieu, n'a aucune assurance de son salut. Il le dit de son propre aveu, « Je ne sais pas du tout où je m'en vais, j'ai aucune certitude, je ne sais pas. » Mais regardez d'où vient cette difficulté dans sa foi. Voici ce qu'il a écrit ce matin, ce qui était publié dans la presse. « Les évangiles ne nous décrivent pas le comment de la résurrection. » Il nous raconte le Christ ressuscité. Et pour bien montrer qu'il n'est pas nécessaire de prouver la matérialité et l'historicité de l'événement, ce sont des femmes qui en sont les premières témoins, quand on sait que dans la culture juive de l'époque, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est je pense même que les auteurs ont voulu nous glisser comme message que les premiers témoins n'étaient pas nécessairement crédibles. C'est une super mauvaise lecture du texte. Au contraire, c'est très clairement un argument de la part des évangélistes pour démontrer que Jésus venait s'adresser à tout le monde et que justement, il allait se manifester aux plus humbles, ceux qu'on ne reconnaissait pas comme l'autorité. C'est pourquoi il va vers la Samaritaine, qui était une non-juive. C'est pourquoi il va vers des non-juifs. C'est pourquoi il va vers des soldats romains. Puis il dit, j'ai trouvé plus de foi en lui qu'en Israël. Et c'est simplement ça l'argument qu'il est en train de faire ici. Mais voyez-vous, cet homme-là, qui est fort sympathique, a décidé à un certain moment donné dans sa foi de dire « Mettons la foi chrétienne au goût du jour, enlevons du christianisme les éléments difficiles à accepter tels que les miracles, et après on leur parlera simplement du miracle d'une nouvelle naissance. » Cette nouvelle naissance-là, ce bouleversement-là qu'on cherche dans nos cœurs, repose sur une résurrection physique et réelle de Jésus. C'est un miracle. C'est surnaturel. C'est difficile à croire et pourtant des millions de gens l'ont cru à travers les âges. De la même manière que je crois que tu n'es pas seulement de la matière et que je ne suis pas seulement de la matière, mais que tu es aussi un être spirituel. Je n'ai pas de difficulté à croire que Dieu peut faire des choses comme ça. J'ai douté longtemps. J'ai lu les Écritures, je suis allé vers les Évangiles. Et c'est ça que je vous invite à faire. Plutôt que simplement prendre l'air du temps, le goût du temps, on est à l'époque de l'information. Allez lire vous-même les documents, ils sont là. Allez lire les Évangiles. Faites-vous votre propre opinion. Interrogez-le. Faites comme Stéphane a partagé vendredi soir lors de son témoignage. Dieu, si t'es là, faut que tu te montres parce que j'ai besoin de croire puis t'es pas facile à croire. Puis allez lire les Évangiles. Quoi qu'il en soit, les premiers témoins ont été tellement bouleversés par leur expérience que ces gens-là n'ont plus jamais été les mêmes. Jésus s'est montré à des centaines de personnes dans différents contextes et les gens qui ont été témoins ont été tellement bouleversés par l'expérience qu'ils ont vécue en voyant ce Christ ressuscité, qu'ils n'ont plus jamais été les mêmes. Et je veux juste citer à nouveau une autre personne, Odette Mainville, aussi une ancienne théologienne de l'Université de Montréal, département de théologie anciennement catholique, mais vraiment emportée dans le courant libéral, d'accord? Alors, dans son article dans la presse hier, toujours le même genre d'argument, on n'a pas de preuves, on ne sait pas si c'est historique. Ça vaut la peine de citer simplement une phrase qu'elle a mentionné elle-même. Elle dit, ce qui est toutefois prouvable, c'est la métamorphose des disciples consécutivement à cette expérience. Voyez-vous, ces gens-là qui étaient des gens de peu, qui étaient des petites gens pour la majorité d'entre eux, peu d'instruction, peu de capacité, peu d'argent, peu d'influence en principe, ont bouleversé leur époque. Et c'était pas l'époque des super preachers télévangélistes qui ont des gros shows puis se promènent en Cadillac. C'était pas ça pantoute. Les gars sont morts lapidés. Ils sont restés pauvres jusqu'à la fin. Ils ont été torturés. C'est la fin d'à peu près tous les apôtres, des premiers chrétiens. Ça va durer pendant des siècles. Vous comprenez? C'est pas un new spin, une nouvelle patente. Ça part comme ça, ça devient super hot. Tout le monde veut embarquer. Hey, on pourrait faire une pièce avec ça. Pendant des siècles, c'est super impopulaire d'être chrétien. Tu décides d'être chrétien, t'as pas besoin d'investir dans un fonds de pension, mon homme. Tu te rendras pas là. Tu comprends? Tu vas être de la chair à lion dans une arène. Ça sert à rien. Tu vis pour aujourd'hui, pour maintenant. Pendant des siècles, ça va être ça. il n'en reste pas moins que les premiers témoins et ceux qui ont cru ensuite en Jésus-Christ ont bouleversé l'Empire romain. Si bien qu'un jour, Tertullien, un des pères de l'Église, va écrire à l'empereur, on est partout. On est partout, on est dans vos palais, on est dans vos marchés, on est dans vos maisons. Nous ne vous avons laissé que vos temples. Et chaque fois que vous nous tuez, chaque goutte de sang de chrétien qui tombe est une semence qui fait naître à la foi de nouveaux chrétiens. Parce que les gens allaient voir les shows, vous comprenez? C'était un show, cette patente-là, de voir des chrétiens mourir. Mais ils allaient là, puis ils étaient bouleversés de voir comment ces gens-là mouraient. À cause de leur foi, en pardonnant, en aimant les gens qui les mettaient à mort, qui leur arrachaient leurs enfants, qui les mettaient à mort. Ces gens-là ont été bouleversés. Ces gens-là ont été bouleversés. Et si vous adhérez un jour à la foi chrétienne, il faut que ce soit sur la base d'une résurrection physique. Autrement, oubliez ça. Vous allez aller vous construire une espèce de petite foi de paille, mes amis. Et le jour où vous allez vous taper un sirop de gros cancer, vous allez approcher de la mort, vous allez dire, je ne sais plus, je ne sais plus. Ces gens-là ont vu et ont cru dans la résurrection de Jésus. Maintenant, je veux juste revenir dans le passage. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et je veux attirer votre attention sur ça. Le fait que Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », est-ce que c'est juste deux synonymes, résurrection et vie? Est-ce qu'il est en train de parler de la même chose dans les deux cas? Je ne crois pas. Je pense que plus que ça, et je crois qu'il est en train de dire davantage que cela. Si on va un petit peu plus loin au verset 26, Jésus va dire « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Et donc, je vois dans ce verset-là « Quiconque vit maintenant ne mourra jamais plus tard ». Et je crois que Jésus est en train de dire, je suis la résurrection, je peux vous donner la vie nouvelle, vous allez ressusciter si vous croyez en moi, je suis aussi la vie ici, maintenant, parce que c'est moi la vie. C'est moi la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit maintenant ne mourra jamais plus tard. Il y a deux éléments, vivre maintenant en trouvant notre vie en lui et vivre éternellement. Et c'est super important à saisir. Parce que c'est facile de croire que le christianisme, c'est justement une patente pour ton lit de mort. C'est quelque chose que t'appelles, tu sais, c'est ta pagette à la fin, tu payes Dieu quand t'es mal pris, puis là tu dis, je pense qu'il en reste plus gros, ça serait cool que tu te pointes. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Jésus, un peu plus tôt dans l'évangile de Jean, s'en va rencontrer cette dame samaritaine à qui j'ai fait référence tout à l'heure. Puis cette dame-là était pas juive, puis il commence une conversation sur le bord d'un puits. Elle s'en venait puiser de l'eau, puis Jésus lui dit « Voudrais-tu me donner un peu d'eau? » Puis tout ça. Ils commencent à jaser ensemble, et voici ce que Jésus lui dit à cette dame. « Quiconque boit de cette eau, l'eau que tu es en train de puiser, aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je répète ça, juste la fin. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jésus est en train de parler ici du moment qui allait venir quelques temps plus tard, où après sa mort, après sa résurrection, après son ascension vers le Père, il allait envoyer son Esprit Saint. Et il allait donner son Esprit à tous ceux qui croiraient dans sa mort, sa résurrection, pour leur propre salut. Et son Esprit allait être donné aux croyants, aux chrétiens, produisant en eux, ici, maintenant, une source de vie qui ne tarira jamais jusque dans l'éternité. Non seulement la promesse de la vie à venir, mais la promesse ici et maintenant d'une vie nouvelle en moi, right now. Pas juste pour plus tard. Et on pense à des passages dans l'Ancien Testament où cette source d'eau vive avait été annoncée. Je vais juste vous en lire quelques-uns brièvement. Dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 12, versets 2 et 3, voici ce qu'il avait dit. « Voici Dieu est ma délivrance. » Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Dans l'Ancien Testament, au moment des textes prophétiques, c'était pas clair tout ça exactement où est-ce qu'on s'en allait. Mais Jésus, lorsqu'il se présente à cette femme samaritaine, lorsqu'il annonce qu'il est la résurrection et la vie, est en train de se révéler progressivement et annoncer « Je suis cette source de salut. Je suis cette source d'eau vive. » Et cette source d'eau vive va être annoncée aux gens de toutes les nations de la terre. C'est ce qu'Ésaïe nous dit encore un peu plus loin. Un passage un peu plus long, je vais vous lire 5 versets. Ésaïe 55, versets 1 à 5. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Rappelez-vous ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Cette eau qui ne rassasie pas. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David, envers Israël et tous ceux qui croiraient ensuite. Voici, je l'ai établi comme un témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Et c'est la fin ici qui m'intéresse. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Vous tous qui avez soif, venez vous abreuver. Et des gens de toutes les nations de la terre viendront s'abreuver à cette source d'eau vive. Il était question d'une source de vie annoncée dans l'Ancien Testament, une source d'eau vive où des gens de toutes les nations de la terre viendraient pour boire. Et cette source-là rassasierait l'âme dès la première gorgée. Dès la première gorgée, cette source d'eau vive créerait une vie nouvelle en tous ceux qui croiraient, qui viendraient à elle, et elle se poursuivrait jusque dans l'éternité. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la promesse de notre résurrection à venir, et Jésus est la vie ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi là, tout de suite? Aujourd'hui, alors que je suis en train de célébrer Pâques, puis qu'il me reste 10, 20, 30, 40, 50 ans à vivre sur la terre, attendant dans l'espérance de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ, sa résurrection, c'est quelque chose que l'on croit. C'est quelque chose que l'on expérimente maintenant. Et c'est quelque chose que l'on espère parce qu'on attend le jour de notre résurrection physique lorsque nous entrerons dans sa présence. Il dit, « Celui qui croit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25, 26, je vous les relis. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et la deuxième partie, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et puis là, il pose une question, « Crois-tu cela? » Le christianisme transforme ta vie, devient opérationnel, bouleverse ta vie au moment où tu fais cet acte de foi. Et c'est quelque chose de surnaturel. On a entendu des témoignages vendredi soir, c'était évident dans les trois témoignages que c'était pas nécessairement quelque chose après laquelle tu cours vraiment. Tu sens à un certain moment donné dans ton âme, dans ton cœur, qu'il y a cette soif-là qui grandit et Dieu, dans sa grâce, place sur ton chemin, place dans tes mains ce message de l'Évangile, ce message qui t'annonce que Jésus est la résurrection et la vie et que c'est dans sa mort et sa résurrection que tu vas pouvoir trouver ce qui va rassasier ton âme. Mais tu commences à sentir cette soif-là et un certain jour, à un moment dans ta vie, tu fais ce pas-là de croire. Et c'est à ce moment-là, quand tu arrêtes de chercher ailleurs, tu décides de placer ta foi en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Dieu, par son Esprit Saint, vient produire cette vie nouvelle-là en toi. Alors, il y a un moment. Il y a un moment. Certains d'entre nous, c'est comme super clair, d'accord? D'autres, c'est comme moins clair. Je peux pas écrire la date, je pourrais pas me faire tatouer ça ici. C'est pas clair exactement, mais je sais, il y a comme une période où, on dirait mon esprit est en train de s'ouvrir, plein de choses qui étaient là, mon cœur est en train de bouger. Pour plein d'autres personnes, c'est à trancher au couteau. Personnellement, je peux vous dire le moment, je peux vous dire l'heure. paf, où j'ai cédé. Tout était comme clair pour moi, mais en même temps, je croyais pas au point de dire, regarde, c'est toi qui le dirige. C'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Sauveur, c'est toi qui le dirige tout. Mais il y a un moment où l'Esprit de Dieu m'a saisi, et ce moment-là où j'ai cru profondément dans mon âme est extrêmement clair. Pour que Jésus soit vie pour toi personnellement, il faut qu'il y ait ce moment où tu crois en lui. Une fois que tu as cru en lui, vis. Vis par lui. Et ça, c'est super important. On pense qu'on vient à Jésus puis on se dit, vous connaissez l'expression en anglais, un side dish, un petit à côté? Il y a une autre expression en anglais, ça dit, c'est une vieille expression, ils vont dire ça, « Have you got religion? You got religion? » Est-ce que tu as la religion dans ta vie? Puis c'est comme une espèce de petit à côté. Vous savez, vous allez au restaurant, puis il y a le plat principal, puis bon, ben tu regardes pas tous les à côté en disant, en fin de compte, je prendrai pas de plat principal, je vais me commander 10 à côté. Non, tu regardes ça, puis tu dis, oh, ça va être comme mon masterpiece à soi, c'est ça que je vais manger, tu sais. Puis là, il arrive avec d'autres petites affaires, puis tu dis, ouais, ça serait le fun, tous ces petits morceaux-là à côté. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Et si tu vas dans ta vie chrétienne en faisant comme si Jésus était un à côté, parce que tu poursuis la vie ailleurs, tu dis, quand Dieu va me donner l'amour, je vais avoir la vie. Quand Dieu va me donner l'amour de ma vie, je vais avoir la vie. Quand je vais réussir ma carrière, je vais avoir la vie. Quand enfin je vais avoir une famille, je vais pouvoir avoir une famille comme je l'ai toujours rêvé. Enfin, je vais avoir la vie. Quand je vais avoir des amis qui sont avec moi, quand je vais retrouver la santé, enfin, je vais avoir la vie. Puis après ça, ben peut-être que j'aurai Jésus, un petit à côté, qui viendra pour agrémenter mes fins de soirée, m'aider à savoir quoi faire le dimanche matin, me rendre à l'église. Si à un moment donné, je néglige un petit peu trop mon épouse, il va me rappeler, Jésus va être là pour dire, tu négliges ton épouse, le centre de ta vie. Fais attention, tu pourrais la perdre. Puis Jésus va être là pour me dire, « Oh, mais tu gères mal tes finances aussi. » Jésus va être mon petit à côté qui va mettre de l'ordre dans ma vie. « I got religion. » C'est pas ça le christianisme. Jésus est la vie. Et là, peut-être que je vais sembler insensible à certains d'entre vous, d'accord? Je ne suis pas. Je suis fait de la même nature que vous. Je souffre comme vous souffrez. La vie n'est pas facile. Et la vie occasionne toutes sortes de souffrances. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Si tu as Jésus-Christ et que tu n'as pas la santé, tu as tout. Parce que personne ne peut t'enlever Jésus-Christ. Parce que tu es un pèlerin sur cette terre et parce que sa vie est en toi déjà. Si tu as Jésus-Christ, ta carrière ne va pas comme tu veux, tu as tout. Si tu as Jésus-Christ et tu n'as pas trouvé encore l'amour de ta vie, tu as tout. Si tu as Jésus-Christ et que ça va pas super bien dans ton mariage parce que ton épouse, elle te comprend pas toujours comme elle devrait te comprendre, tu as tout. Si tu as Jésus-Christ et ta famille, c'est pas encore la famille de tes rêves, tu as tout. Parce que tout le reste, c'est un petit plus qui vient agrémenter. Et lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés là, il a mis plein de petits plus devant eux. Mais tous ces petits plus-là étaient là pour leur parler de Dieu. Et voyez-vous, on parle des idoles régulièrement dans la série actuellement, à l'église et dimanche matin. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, chaque fois que tu prends les petits plus que Dieu veut mettre dans ta vie et que tu dis, wow, ça c'est ma vie, tu viens de tasser Jésus de ta vie complètement. Tu dis, Jésus, t'es un à côté. La vérité, c'est que si j'ai Jésus-Christ, j'ai tout. Puis de temps en temps, il faut que je regarde mon épouse puis je dise à Esther, chérie, je t'aime énormément. Je donnerais ma vie pour toi n'importe quand. Mais t'es juste un à côté. Parce que Jésus est tout pour moi. Et pour ceux et celles d'entre vous qui languissez à en mourir, à oublier que Jésus vous aime parce que vous attendez ce petit à côté qui va venir à vos côtés un jour descendre l'allée. N'oubliez pas, si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Vivez maintenant. Maintenant, cette vie qui est en vous, cherchez-la pas ailleurs. Laissez-le vivre en vous maintenant par la puissance de son esprit. Il veut remplir vos cœurs de joie et tout ce que j'ai à faire, c'est demeurer près de lui, me rappeler qu'il sente de ma table. C'est lui le plat principal et j'ai tout en lui. Amen. Amen. Vivez en lui. Puis avancez dans la vie en vous disant, jamais je ne mourrai. Le moment où je vais fermer les yeux, ça va être le moment d'un instant, parce qu'après je vais les ouvrir. Et devant moi, je vais avoir la gloire de mon Père. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. On va passer un temps de louange ensemble. Peut-être que Dieu travaille dans ton cœur depuis un bout de temps. Il a bouleversé ton âme et tu sens cette soif-là en toi-même qui grandit. Je t'invite dans les semaines qui suivent à prendre le temps d'aller lire les évangiles. Peut-être que tu connais Jésus-Christ personnellement, mais en même temps, il y a cette espèce de litanie dans ton âme où tu dis « Oui, Dieu, mais tu m'as pas donné ça, mais j'ai pas ça, mais je n'ai plus ceci. » Et peut-être que ce matin, alors qu'on va louer le Seigneur ensemble, alors qu'on va prier, c'est le moment de confesser simplement, d'ouvrir ton cœur à Dieu et dire « Seigneur, je veux que tu sois mon plat principal. » Parce que j'ai tout en toi, même si je n'ai pas le reste, Seigneur. Et en toi, je vais trouver cette vie-là. Et alors, le Christ ressuscité physiquement, qui va revenir un jour, visiblement et physiquement, tu vas le sentir bien vivant dans ton âme et tu vas vivre cette joie-là. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi pour célébrer la résurrection. Viens devant toi pour célébrer ta gloire, ta majesté. Seigneur Jésus, lorsque tu as ressuscité Lazare, tu as fait quelque chose d'incroyable. Mais en même temps, c'était juste une résurrection physique, Seigneur. Ce que tu as fait dans mon cœur est encore plus précieux. Tu as ressuscité cette mort spirituelle qu'il y avait en moi. Tu as fait naître en moi une vie nouvelle. Et depuis des années, Seigneur, chaque fois que je te tasse un peu puis que je décide de prendre un de ces à côté, une de ces bénédictions que tu voudrais me donner et que je décide d'en faire le centre, le plat principal, Seigneur, je perds ma joie. Je perds ma joie, Seigneur, parce que je cherche à me rassasier d'une eau qui ne rassasie pas. Et je veux me rappeler ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, je veux me rappeler alors que nous célébrons ta résurrection, que tu es vivant, que ton esprit est vivant et qu'il vit en moi, Seigneur. Sois le centre de mon cœur. Que ton esprit m'anime quotidiennement, Seigneur. Attire à toi tous ceux qui sont là et qui se disent, oui, un jour peut-être, j'essaierai la religion. Ça sera un petit à côté qui viendra mettre un peu d'ordre dans mon désordre, qui me donnera quelques principes de sagesse. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus. Montre-leur que toutes ces eaux auxquelles ils vont boire, toutes ces sources auxquelles ils vont s'abreuver, ne peuvent rassasier l'âme et redonner la vie. Mais toi seul, celui qui a créé la vie, celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui revient bientôt, peut ressusciter cette mort en nous pour donner cette vie nouvelle. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.